RCF.
Lorsque l'on rencontre l'âme sœur, on se dit qu'on ne sera plus jamais seul au monde. On attend de l'être aimé l'amour, la sécurité, le réconfort. On attend d'elle ou de lui que notre vie soit transformée. Chaque rencontre est une petite révolution porteuse de folles espérances. Et pourtant, une fois la passion retombée, beaucoup d'hommes et de femmes tombent dans la désillusion et se sentent affreusement seuls. Eux qui rêvaient de l'union parfaite, ils se sentent séparés et éloignés de la flamme initiale. Alors ont-ils rêvé? Comment vivre l'amour qui rapproche tout en restant soi-même? Même avec sa part de solitude. Cette question est au cœur du livre du psychiatre Christophe Fauré, intitulé « Ensemble mais seul », paru chez Albin Michel. Christophe Fauré, bonjour.
Bonjour.
On s'aime pour échapper à la solitude ?
On s'aime pour... Pour recréer un lien, hein, si on remonte très 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 loin dans notre histoire, quand nous étions tout petits dans le ventre de notre mère, il y avait cette fusion, cette osmose. Et avec notre naissance, reste très très archaïquement en nous planter la nostalgie d'un temps où deux ne faisaient plus qu'un. Et c'est peut-être ça, hein, qu'on essaie de retrouver à travers le lien d'amour, cette fusion où on retrouve un petit peu cette unité qu'on avait connue auparavant. En fait, le cœur de cet ouvrage, au bout du compte, c'est que l'être humain, à partir du moment où il naît tout seul, même s'il est entouré d'une horde de médecins et de sages-femmes, et quand il meurt, et même s'il est entouré de plein d'accompagnants qui lui donnent leur amour, il est quand même fondamentalement seul. Et de ce point à l'autre de l'existence, on est toujours dans cette solitude, mais pas une solitude effrayante, pas quelque chose dont on doit avoir peur, mais quelque chose qui est juste nous, notre nature d'être humain. Mais c'est vrai que malheureusement, notre société ne nous apprend pas à rencontrer cette dimension sereinement. On nous l'apprend peut-être via la spiritualité, par exemple, dans la prière ou dans la méditation ou dans la contemplation de la nature, par exemple. Mais on nous apprend quand même le bonheur est à l'extérieur. Donc, et si on peut consommer et acheter des choses, des voitures, des maisons, des choses comme ça, on va trouver le bonheur. Alors que là, on est confronté avec quelque chose qui est beaucoup plus essentiel et qui n'a pas besoin de choses extérieures. Mais on n'a pas l'habitude de rencontrer ça. Et pour faire le lien avec le couple, on se retrouve souvent avec l'idée de l'espoir que le couple va apaiser ou remplir ce sentiment de solitude qu'on peut ressentir.
Donc on va chercher à l'extérieur, là encore.
Exactement, on va chercher à l'extérieur en mettant parfois trop d'attente, trop d'espoir sur ce que peut donner cet extérieur. Là, on évoquait l'enfance. Si tout petit, on a vécu avec des carences affectives et émotionnelles et qu'on a un creux en soi, un vide à l'intérieur, on peut avoir l'espoir, en partie raisonnable, mais en partie vain, que le couple va venir remplir ou réparer ce vide.
C'est un leurre de croire que l'autre va me soigner, me réparer.
Ouais. Oui, il n'y a que nous qui pouvons nous réparer. La relation d'amour peut être un cadre fantastique. On peut prendre l'image d'une serre. C'est comme une magnifique serre qui nous donne toutes les conditions de température et de température d'air et d'hydrométrie, etc. Mais ça n'est qu'une serre qui va permettre au potentiel de la graine de germer. Mais la graine, elle est toute seule à germer. Hein, elle a son potentiel. Et si la graine est un petit peu dysfonctionnelle dans son essence, elle peut avoir la serre la plus belle du monde, ça ne fera rien pousser. Donc le couple le plus fantastique du monde est une superbe condition, mais il faut qu'à l'intérieur, chacun puisse cheminer un petit peu quand même.
Mais on n'apprend pas à être seul. Du coup, quand on rencontre l'âme sœur, on plonge littéralement en l'autre.
Mais il faut qu'on
décrivez hein, la fusion
oui,
amoureuse.
Il faut qu'on plonge. C'est d'ailleurs un des fondements de la relation d'amour qui va se construire après. C'est nécessaire. On dit, oh là là, moi, je ne veux pas tomber à nouveau dans les pièges de la fusion amoureuse. Mais si, tombons dans les pièges de la fusion amoureuse, parce que c'est vraiment quelque chose qui initie le lien et lui donne vraiment un élan.
C'est fondateur donc au départ.
C'est fondateur et c'est indispensable. Après on va s'en souvenir. D'ailleurs, si le couple va mal, il y a certaines thérapies de couple qui permettent de reprendre des années plus tard en disant mais qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers instants pour vous? Et là, quand en faisant parler les gens là-dessus, on se rend compte qu'ils retrouvent des échos de ce qu'ils avaient initialement motivé à s'explorer l'un l'autre et ça peut redonner de l'élan. Mais, comme toute fusion, il y a des fusions. Hein. Deux êtres humains, ça ne peut pas fusionner tout le temps.
Et on se retrouve seul, du coup.
Et on se retrouve seul. En fait, on se retrouve seul. On se retrouve avec soi en tant qu'être humain, avec cette solitude fondamentale dont je parlais au début. Mais on se retrouve aussi en face de quelqu'un d'autre qui a aussi ses besoins, ses besoins d'exister, ses besoins d'être heureux, ses besoins fondamentaux. Et après, qu'est-ce qu'on fait de cet autre qui est en face de nous ?
Et vous décrivez bien que si le lien n'est pas bien construit, oui, on tombe dans ce que vous appelez la solitude isolement.
La solitude isolement. Alors je voudrais mettre juste un petit bémol. Ce vécu de solitude isolement qu'on pourrait décrire comme quelque chose, un sentiment dans le cœur de perte de lien, de perte de connexion avec la personne qu'on aime, c'est quelque chose quand même qu'on rencontre tout le temps, fréquemment dans la relation d'amour. Hein.
Par exemple, c'est quoi ? Comment ça se décrit ?
Ça se décrit, je suis situation que tout le monde connaît, hein. Un dimanche soir, le temps a été un petit peu pourri tout le week-end, et on est devant la télé avec un film qui est pas très intéressant, et demain on reprend le travail. Il se peut que dans le cœur, on est avec son compagnon ou sa compagne qui est assis à côté dans le canapé. Il se peut qu'on ait un petit sentiment un peu amer, quoi, un truc de vide. Et là, ça, c'est la tonalité de solitude isolement. Donc, ça arrive très souvent dans le couple. Ce que j'ai développé dans le livre, c'est quand ce sentiment est presque constant. Que vraiment, les semaines passent, les mois passent, voire les années passent, et on reste tout le temps là-dedans.
Hein, et ça, vous expliquez bien que c'est à cause du lien qui se délite.
Se délite, oui.
Que cet isolement va s'accroître de mois en mois.
Exactement. Il y a un oubli de la relation, un oubli de l'autre, un oubli de ce qu'il est, un oubli de ce qui a créé initialement la relation. Et progressivement, il y a un sentiment, mais parfois assez effrayant, hein, de perdre de lien, de vivre à côté d'un étranger, d'une étrangère, de cohabiter. Si on n'est pas vigilant, hein, soyons clairs, si on n'est pas vigilant, il y a de grandes chances pour qu'on aille vers une séparation.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui se séparent très très vite et qui se disent, bon, bah, il n'y a plus rien, quoi.
Voilà, il y a peut-être une intolérance viscérale pour certaines personnes à tolérer ce ressenti, alors que, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce bouquin, il y a vraiment des choses à explorer avant.
Repère RCF.
Christophe Fauré, nous ressentons tous le besoin d'être en sécurité et d'être protégé. Et vous dites dans votre livre que cette demande de sécurité, quand elle est excessive, fait des dégâts chez le conjoint. On rejoint la solitude, on demande à l'autre de nous donner quelque chose qu'il ne peut pas nous donner.
Exactement, là on entre dans cette partie importante du livre qui parle de toutes les attentes démesurées, les attentes illusoires qu'on a par rapport au couple. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent la solitude et l'isolement survient. On demande trop à un couple qui peut donner ce qu'il peut donner uniquement. Et si on lui demande trop, on peut lui demander notamment, donne-moi de la sécurité, rassure-moi. Et cette insécurité fondamentale, si elle est en soi acquise parce qu'il y a une maman qui n'avait pas donné assez d'amour dans le passé, ou un papa qui était absent, soit physiquement, réellement, soit émotionnellement, c'est quelque chose qui est en soi. Et on peut espérer qu'une partie, évidemment, de cette solitude ou de ce manque va être comblée par la relation. Mais si on ne le rencontre pas directement, soit de soi à soi à l'intérieur, on va avoir une demande, donc je me répète, à laquelle le couple ne pourra pas répondre.
Donc une frustration.
Une frustration. Et la frustration, ça peut conduire à de la colère, hein, vis-à-vis d'un conjoint. Alors, il y a deux stratégies qui peuvent être possibles. Soit on va être dans l'attaque, on va être dans le retrait. Dans l'attaque, ça va être de demander encore plus. Et il y a une espèce d'escalade qui se fait. Imaginez, un homme rentre du travail, son épouse est là, Elle prépare le repas, s'occuper des enfants, et elle se sent mal parce qu'elle se sent déconnectée de lui. Elle va le voir devant sa télé. Il est rentré, il a rien dit, il a pris une bière, il est devant la télévision.
Alors qu'elle a besoin de sécurité.
Voilà, alors qu'elle se sent complètement insécurisée parce que elle a l'impression que sa vie se réduit à une peau de chagrin simplement autour d'une vie de mère dans une banlieue. Et c'est absolument terrible. Il y a rien d'autre d'elle qui s'exprime. Donc là, vraiment, une déconnexion par rapport à elle-même, hein. J'espère qu'on y reviendra parce que c'est le cœur de tout en fait. Et donc un vécu de déconnexion par rapport à son mari qui ne parle pas. Elle va monter au créneau. Elle va dire mais il y en a marre, et parfois c'est une broutille, hein. Tu n'as pas descendu les poubelles, range tes chaussettes, enfin des trucs qui sont à côté de la plaque mais qui en fait disent quelque chose de plus central, c'est j'existe, rassure-moi sur le fait que j'existe et que je compte pour toi. Et plus c'est récurrent, jour après jour, plus le mari, en riposte, je dirais, va
se retirer.
Développer exactement l'inverse par rapport à ce qu'elle souhaite, qui est un retrait, qui est il va s'enfermer à l'intérieur de lui-même, et là, lui aussi, ressentir son vécu de solitude, d'isolement, parce que il perd le lien. Comme il essaie de s'anesthésier par rapport aux attaques de son épouse, il va progressivement anesthésier tout, et y compris le lien d'amour. Alors ça c'est un cas de figure, c'est un exemple, mais on peut voir l'inverse avec l'homme qui lui de son côté veut exister par rapport à son épouse, mais son épouse qui est complètement happée dans son rôle de mère et il n'a plus de place, il se sent complètement seul en tant que mari et n'a plus de place que quand il est père aux yeux de son épouse.
Alors donc, dans l'exemple que vous donnez, il y a quand même une solitude à l'intérieur de cette femme.
Ouais.
Comment on sort de ça? Comment on apprivoise ça? Le manque de père, le manque de mère éventuellement.
Mais vous savez, d'abord, avant de l'apprivoiser, faut prendre conscience qu'il s'agit de ça. Parce que parfois, on impute au couple, on condamne le couple d'être responsable de ça et on ne se rend pas compte que, en fait, ce sentiment de déconnexion dans la relation avec la personne qu'on aime, c'est peut-être, je dis pas tout le temps, hein, mais c'est peut-être aussi d'abord une déconnexion par rapport à soi-même, où on s'est perdu.
Perdu de vue.
On s'est perdu de vue, on s'est complètement abandonné soi-même. Parfois c'est légitime, hein, on se dit ok, dans la relation d'amour je vais tout investir et je vais construire quelque chose avec cet homme ou cette femme. C'est hyper bien, c'est vraiment un beau projet de vie. Mais parfois, dans la foulée, on renonce à qui on a voulu être. On renonce à sa créativité, à son envie de s'exprimer d'une autre façon, d'écrire, de peindre, ou des choses plus prosaïques, de faire du sport ou d'être en lien avec la nature. On a accepté de quitter un coin de France où on avait sa famille et on va habiter dans un autre coin, en se coupant de son milieu, de tout ce ou ses amis de son milieu social. Donc il y a tout un ensemble qui fait que on se retrouve complètement isolé. Et il faut d'abord prendre conscience de ça. Mais au bout du compte, est-ce que je ne suis pas d'abord coupé de moi? Là, c'est déjà une première base de dialogue avec le compagnon et on va peut-être, ou la compagne, on va peut-être lui dire, attends, il y a un malaise que je ressens dans notre relation, mais peut-être que c'est lié à un malaise qui me concerne moi, où je suis un peu coupé de moi.
Et plutôt que d'accuser l'autre.
Voilà, plutôt qu'accuser l'autre. C'est un cas de figure, hein. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais là, ça pourrait être une perche tendue à soi-même et au compagnon ou à la compagne de se dire, comment on peut faire pour que tu te reconnectes à toi-même? Est-ce que, par exemple, on a besoin, mais c'est des choses très, très prosaïques, basiques, hein. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de trouver une babysitter ou une dame qui va garder la petite et tu trouves un emploi à mi-temps et tu reprends cet emploi de, je sais pas moi, attaché de presse que tu avais laissé tomber quand on s'est marié et qui te manque. Vous voyez, c'est parfois des petite chose, en fait, c'est ça, c'est une grosse solitude, une grosse souffrance, mais on se rend compte que mis bout à bout, ça peut être des petits moyens qui peuvent restaurer la relation.
Et du coup, on va plus demander à l'autre de nous remplir ou de donner une raison à notre vie,
voilà.
Mais on va trouver en soi-même.
Voilà, vous avez compris, c'est pas, j'insiste bien, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est très très souvent dans ce cas de figure. Donc ça, c'est les stratégies de demander trop à l'autre. Mais parfois, à force de trop demander, on se rend compte qu'il y a des personnes qui renoncent à demander et qui s'enferment dans le silence. Bon, il y a aussi des traits de personnalité, il y a des gens qui n'arrivent pas à exprimer les choses et on renonce, c'est le retrait. Et le silence, ça peut être aussi un silence de peur de nommer le malaise qu'il y a dans le couple. Peur de dire, attends, là, il y a un problème, on n'est plus en lien. De peur que l'autre dise, oui, effectivement, il y a un problème, séparons-nous. Donc, parfois, on pense que les choses qu'on ne dit pas n'existent pas. Hein, ce qui est complètement faux, mais on pense que si on ne parle pas du problème, il ne va pas exister. Il peut aussi avoir le souhait de se taire parce que l'autre peut nous renvoyer en retour. Oui, et moi, qu'est-ce que tu crois que je vis avec toi qui fait ceci ou cela? Moi, je me sens aussi complètement seul. Donc, on a peur aussi des reproches. On a peur aussi que l'autre, et là, dans les gens que j'ai interviewés, il y avait cette réponse-là, une femme qui disait, j'ai peur de perdre la face par rapport à mon mari, parce qu'un jour, je lui ai dit que je me sentais seul dans le couple, et il m'a dit, bah, attends. Mais tu as tout, une belle maison, des beaux enfants. Et tout. De quoi tu te plains? Et elle m'a dit, je me sentais la petite fille gâtée, alors que c'était pas ça dont j'ai parlé. Je me sentais de quelque chose de beaucoup plus profond et dans laquelle je m'enlisais.
Repère, Béatrice Soltner.
Christophe Fauré, dans votre livre « Ensemble mais seul » paru chez Albin Michel, vous dites que l'amour c'est un travail.
Oui.
Et vous donnez une définition de l'amour, la volonté de se dépasser dans le but de nourrir sa propre évolution et celle de quelqu'un d'autre.
Oui, j'insiste, c'est une définition que j'emprunte directement de Scott Peck dans un remarquable ouvrage que je recommande à tout le monde, Le chemin le moins parcouru. Donc c'est vraiment un emprunt, c'est pas du tout quelque chose que j'ai créé, mais oui, de fait, tout ce dont on vient de parler pointe clairement que après la fusion amoureuse, une fois l'aisance de la passion partie, on se retrouve avec un homme, une femme en face de soi, avec des besoins, des désirs, des attentes, des blessures, avec des besoins, des peurs, etc., etc. Et donc, au bout du compte, il faut commencer à être en lien avec cette personne-là et en lien avec soi-même. Eh bien, ça, c'est du boulot. Je prends l'exemple d'un ami. J'ai la chance d'avoir un ami qui est danseur à l'Opéra de Paris. Et il me dit, mais c'est parfois 8 à 10 heures d'entraînement intensif par jour
pour
arriver à faire un truc qui extérieurement paraît une aisance, une grâce infinie. Mais c'est ça aussi le couple. On voit parfois des relations de gens qui semblent, mais ça coule de source et c'est merveilleux de les voir. Et on se demande, mais ça fait quoi, 2 ans qu'ils sont ensemble? Ben non, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Et derrière, on se rend compte qu'il y a vraiment du travail. Bon, qui est pas formulé comme ça, en termes de travail, mais néanmoins qui demande une volonté. Donc si on prend cette définition, la volonté, ça suppose donc que l'amour, c'est une décision.
Un choix,
une décision qu'on prend et qui implique donc forcément un effort, alors que tomber amoureux, c'est vraiment pas un effort.
Mais c'est la rencontre de l'autre qui exige ça, oui, l'autre,
oui,
différent.
Oui, et c'est se dépasser, donc c'est aller au-delà de ses propres limites, les propres limites par exemple de mon confort personnel, et dans le but, donc là toujours l'idée de que l'amour ce n'est pas un état fixe et immuable, c'est un mouvement, nourrir sa propre évolution et nourrir la propre évolution de l'autre. Et ça se résume pas simplement à avoir des sentiments affectueux, ça résulte vraiment d'un réel souci que l'autre soit heureux. Alors les gens qui sont éperdument amoureux et qui entendent ça aujourd'hui vont dire, bah oui, c'est évident, parce qu'ils nous racontent, c'est évident. Mais si vous regardez autour de vous et si vous-même vous souffrez de solitude, d'isolement, vous allez vous rendre compte que c'est loin d'être évident. Parce que très souvent, quand on se laisse enliser trop longtemps dans la solitude, d'isolement qui dure des mois ou des années, on perd complètement le sens de l'autre. Mais des fois, on se demande, il y a un monsieur qui avait perdu le lien avec son épouse, et je lui demande presque naïvement, c'est quoi les rêves, les aspirations, les secrets, désirs de votre épouse? Il m'a regardé comme si j'avais posé une question, mais à 1 milliard de dollars, et il me dit, mais je sais pas. Il savait pas. Et il savait pas que son épouse, donc il a demandé, mais que son épouse était passionnée de musique, que son épouse avait un rêve, c'était de pouvoir jouer d'un instrument et de faire des petits concerts, etc., etc. Qu'elle espérait secrètement un jour qu'il allait revenir avec des billets de concert ou d'opéra pour lui faire la surprise. Et elle attendait sans jamais lui demander. Donc forcément, ça venait pas. Et donc là, la déconnexion peut être aussi la non-connaissance de ce que vit l'autre, ce dont il a besoin. Donc ça, c'est un vrai travail. Je vois pas comment on peut l'appeler autrement.
Alors, la solitude fait partie donc du lot, hein,
du
lot,
couple. Oui, oui.
La solitude fondamentale, vous en parlez dans votre livre, à la fin du livre, cette bonne solitude. Vous dites qu'il y a une bonne solitude.
Ouais.
Justement, quand on nourrit sa propre évolution et celle de l'autre, normalement, elle doit prendre place, cette solitude fondamentale.
Elle est déjà là, hein. Cette solitude fondamentale est déjà là. Au bout du compte, on pourrait définir l'amour comme quoi. Ça peut paraître consternant, mais c'est comme ça. Imaginez que nous sommes amoureux. Si moi je rencontre ma solitude fondamentale, si je me dis ok, je suis un être humain fondamentalement, et c'est entre parenthèses le lieu de la spiritualité aussi, le lieu de la créativité, le lieu de l'intériorité, hein, cette solitude fondamentale. Donc c'est le lieu de toute notre humanité qui est là. Si je vais à la rencontre de ça, je nourris ça, et de façon plus extérieure, je le nourris avec des choses de ma vie de tous les jours. Forcément, je vais être amené à prendre conscience que l'autre aussi, il est dans sa solitude fondamentale, avec ses mêmes besoins, ses mêmes priorités, cette même intériorité.
Ah oui, le fait et de s'en rendre compte soi-même, ça ouvre
aide
à l'autre.
Mais oui, ça aide à l'autre. Et l'amour, ce serait quoi? Ce serait un pont entre nos deux solitudes. Donc on ne se leurre pas que le couple abolit la solitude. D'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est « Apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple ». Ce n'est pas éradiquer le sentiment de solitude, c'est l'apprivoiser. Donc on ne se leurre pas sur le fait qu'il va disparaître, mais c'est juste un pont entre toi et moi, de nos deux solitudes. Et comme tout pont, il demande maintenance. Il faut qu'on le répare, qu'on vérifie s'il n'y a pas des fissures. Et c'est ça le travail d'amour. C'est le travail de vigilance par rapport au pont. Et j'introduis dans le bouquin aussi la notion de travail d'amour envers soi-même.
Très important.
Et c'est l'essentiel. C'est vraiment le corollaire. Tout va en même temps. Travail d'amour envers soi-même et vraiment le reconnaître comme tel. Manifester la même générosité qu'on manifeste vis-à-vis du conjoint, la même patience, la même douceur, la même conscience des besoins de l'autre, mais aussi de soi. Et la notion de sacrifice comme ça, elle est pas juste, parce que quand on se sacrifie, c'est on nie tout ce qu'on est et donc on risque de se couper. On se coupe de soi-même et que malheureusement, on fasse le lit de cette solitude, isolement, parce qu'on aura simplement soi-même perdu le fil de sa propre histoire.
Donc, chacun a apprivoisé sa propre solitude et puis la vivre. Vous donnez, vous, des petites pistes pour que le couple puisse vivre la solitude.
Voilà, et c'est des choses vraiment, vraiment simples. Hein. Quand l'un est habite son espace intérieur, que l'autre habite son espace intérieur, vous pouvez être complètement à une terrasse d'un café, à lire pour un brunch dominical par exemple, et vous avez partagé un petit peu, mais pas forcément énormément, autour de ce repas, et puis chacun se plonge dans son magazine ou dans un journal du dimanche, et après 2 heures passées là, chacun est plein. Et pourtant, on a très très peu échangé. Et vous regardez la table d'à côté, il y a un autre couple qui n'a pas échangé un mot, ou même qui a même parlé plus que vous, et ils vivent un sentiment de terrible solitude, parce que lui ou elle a des besoins que l'autre ne remplit pas, il ou elle n'a pas osé en parler, il ou elle ne prend pas soin de lui-même ou d'elle-même. Il y a mille choses, et la différence entre les deux, c'est peut-être qu'il y a une conscience de qu'on existe en tant qu'être humain, qu'on a d'abord une responsabilité vis-à-vis de soi-même et après une responsabilité vis-à-vis de l'autre.
Donc on peut passer de la solitude isolement à une bonne solitude.
Ouais.
Chacun, nous avons la capacité de...
Exactement, ça c'est la conviction. Sinon j'aurais pas écrit ce livre. C'est vraiment cette conviction, mais j'insiste hein, encore et encore que c'est vraiment un travail. Une volonté, mais si on a construit quelque chose, si on a construit un couple, un amour avec des enfants et des choses vraiment des choses belles, ça vaut vraiment vraiment le coup d'essayer. Il y a un point important d'ailleurs, c'est que cette démarche de reconstruire le lien d'amour n'a donc pas forcément besoin d'être bilatérale. On peut soi-même déjà initier le mouvement, et comme on s'apaise, comme on prend soin de soi, il peut y avoir quelque chose qui fait un appel d'air chez l'autre et qui fait qu'il a envie lui aussi ou elle aussi, de profiter de cette paix ou de cette sérénité nouvelle qui s'installe chez l'autre. Donc il n'y a pas besoin que ce soit les deux en même temps. D'abord, c'est rarement les deux en même temps. Hein.
En tout cas, ça demande un travail sur soi, quoi qu'il arrive.
Oui, bien sûr. Oui.
Christophe Fauré, un grand merci. Votre livre paru chez Albin Michel s'intitule « Ensemble mais seul, apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple ». Merci à Benoît Palandre qui mettait en onde cette émission.